Je suis absolument ravi, fier, honoré que Jonathan Coe, Jérôme Ferrari et Durs Grünbein soient parmi nous ce soir pour partager ce qui les unit dans leur parcours littéraire, à savoir cette relation très spéciale avec leur éditeur ou leur éditrice, Joanna Pryor, Marie-Catherine Vacher et Thomas Spahr. Et pourquoi, à l'heure où on ne parle que de désintermédiation, ce travail avec un éditeur, ou une éditrice bien sûr, reste d'une telle acuité et d'une telle actualité. C'est donc la quatrième fois que la Fédération des éditeurs européens, qui regroupe 28 associations d'éditeurs de livres et de revues scientifiques de l'Union européenne et de l'espace économique européen, organise une telle manifestation. La Fédération des éditeurs européens nous représente auprès de vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Fédération des éditeurs européens, c'est une équipe qui travaille au jour le jour sur tous les dossiers que vous êtes amenés à étudier et qui sont relatifs à l'édition, au livre de manière générale. Ils sont là tous les quatre ce soir et ils nous ont vraiment comblés en organisant cette soirée. Anne Bergman-Taron, qui en est la directrice générale, qui peut se lever pour que vous les voyez. Enrico Turin, Liv Weisberg, Laura Hulgat et Julie, notre stagiaire, qui a un rôle très important ce soir. N'hésitez pas à faire appel à eux et à nos collègues quand vous avez des questions sur l'édition. Alors pourquoi ces dialogues? C'est vrai, pourquoi? Eh bien, demain, ou après-demain, ou le jour d'après, vous allez vous pencher sur des dossiers qui vont avoir une très grande influence sur le secteur de l'édition de livres. Que ce soit le droit d'auteur, qui pour nous est la pierre d'angle de l'investissement de nos auteurs et de nos maisons d'édition. N'oublions jamais que l'éditeur est celui qui investit en premier financièrement sur un ouvrage, par l'avance qu'il verse, en principe, à l'auteur avec lequel il a signé un contrat. Vous ne le savez peut-être pas, mais en moyenne, seul un livre sur 10 est rentable. 7 livres sur 10 perdent de l'argent. Mais si on ne faisait pas ces 7-là, on aurait des remords, parce que ces 7 livres, ces 7 ouvrages, ont autant de valeur que les autres, puisqu'une œuvre, ça se construit dans le temps, dans la durée, dans un parcours, et c'est pour ça que les succès d'aujourd'hui permettent de financer les succès de demain, tout au moins les auteurs dans lesquels nous croyons. Sans le droit d'auteur, sans ses engagements, celui de l'auteur, celui de son éditeur et de toute sa maison d'édition, eh bien les relations seraient altérées et très vite, c'est la diversité culturelle qui serait mise à mal. Et quand on parle de diversité de nos jours, trop souvent, on oppose le travail d'un auteur, ou de plusieurs, mais le travail d'un auteur, et des multiples acteurs d'une maison d'édition, puisque ça concerne bien sûr l'éditeur ou l'éditrice, la fabrication, les relations avec la presse, la promotion, le commercial, etc., avec celui des millions d'internautes qui partagent vidéos ou blogs à titre gratuit ou payés par la publicité. On se trompe. C'est de choix ici que l'on parle, de choix de publication, et ces choix sont des choix humains et pas des choix d'algorithme. Le choix pour tout un chacun de publier en ligne son livre, sans l'aide de personne ou presque. Le choix aussi pour tout auteur, de rencontrer un éditeur, de construire ensemble une œuvre, et de vouloir bien sûr bénéficier d'une juste rémunération, quand cette œuvre, et seulement quand cette œuvre, trouve son public. Et souvent grâce à l'éditeur, mais aussi aux libraires, ne les oublions pas, qui font un travail absolument formidable et essentiel dans cette grande chaîne du livre. Voici pourquoi, quand vous serez confrontés aux propositions de la Commission sur le droit d'auteur, j'espère que vous aurez à cœur de stimuler la créativité et la diversité culturelle qui sont essentielles à nos yeux et dans la mission qui est la nôtre. Et il y aura de moins en moins de diversité culturelle si la concurrence avec ses prescripteurs que sont les libraires libres, si cette concurrence n'est pas une concurrence équilibrée où tous ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Je pense bien évidemment aux règles fiscales qui aujourd'hui favorisent de grands groupes, souvent anglo-saxons, et mettent à mal leurs concurrents qui ne pratiquent pas l'optimisation fiscale, c'est-à-dire les libraires locaux, nationaux et tous les autres qui sont des points de vente de livres au milieu d'une autre activité. Je pense aussi à l'interopérabilité. Comment accepter le fait qu'on ne puisse pas lire tel ou tel livre sur tel ou tel instrument? L'interopérabilité, c'est permettre à chacun de lire sur une liseuse, quel que soit son modèle, quelle que soit sa marque, et de pouvoir en profiter. Je ne vais pas m'éterniser, je ne veux pas prendre trop de temps, mais juste un mot sur la fiscalité du livre numérique. Si la France et le Luxembourg ont aligné les taux de TVA du livre imprimé et du livre numérique, cette action est contestée aujourd'hui par la Commission européenne devant la Cour de justice. Et nous avons besoin de vous, mesdames et messieurs les députés, pour faire pencher la Commission et pour que les États membres qui le souhaitent, comme l'Italie ou la Belgique, où un projet de loi vient d'être déposé, puissent avoir un taux réduit qui vise à encourager la lecture et non pas l'utilisation du papier. C'est la lecture qu'il faut encourager. En Allemagne et puis maintenant en France, nous avons organisé un jeu, les petits champions de la lecture. Les enfants ont 10 ans, ils sont scolarisés, ils sont préparés par leurs professeurs. 15 000 ont joué ce jeu l'année dernière avec une grande finale sur la scène de la Comédie française. Imaginez, meilleure façon de voir la lecture quand on est enfant, en commençant comme ça par la lecture à voix haute. À ce titre, nos collègues italiens ont lancé une campagne de sensibilisation qui s'intitule « Un libro » et nous vous invitons à participer à cette campagne en vous faisant photographier devant la bannière, en vous voyant si nombreux et en regardant Jonathan, Jérôme et Dours. Je les appelle par leur prénom parce qu'il y a déjà, en tant qu'éditeur moi-même, une familiarité qui existe. Je me réjouis en tant que président de la Fédération des éditeurs européens que le livre nous réunisse ce soir. Le livre, pour chacun de mes collègues éditeurs, a voué sa vie. Ce livre qui nous fait voyager, ce livre qui nous informe, nous amuse, nous fait pleurer ou frissonner, ce livre qui est notre compagnon sur notre table de chevet, sur nos étagères, et ma maison en est pleine au grand dam de toute ma famille, ce livre qui se transforme, qui rencontre Internet, les autres médias, ce livre, ce soir, demain et toujours, il a besoin de vous. Il a besoin de vous comme lecteur, bien sûr. Et on en a parlé avec quelques-uns d'entre vous, et c'est formidable de savoir que vous êtes des lecteurs, mais aussi comme législateur compréhensif et amoureux de ce produit unique que nous ne changerions pour rien au monde, qu'est le livre. Nous sommes soutenus ce soir par deux sociétés de gestion collective. Et la gestion collective, c'est quelque chose aussi d'essentiel dans le bon fonctionnement de notre chaîne du livre. Vauge Wort, qui ne peut malheureusement pas être avec nous, et la SOFIA. La SOFIA qui gère le droit de prêt numérique en France, tout ce qui fait qu'un auteur, où qu'il soit, puisse être rémunéré pour son œuvre quand elle rencontre son public, quel que soit ce public. Et la SOFIA a une particularité formidable dans la réunion que nous avons ce soir, mais aussi dans la vie de tous les jours, qu'elle est paritaire, auteur et éditeur. Et son président est là, Alain Absir, un grand écrivain français qui préside, en plus de son activité littéraire, cette activité essentielle à l'équilibre économique du livre. Son directeur général, Christian Roblin, est là également. Il nous sponsorise ce soir et c'est avec un grand plaisir, cher Alain, que je vous passe maintenant la parole.
Bien, merci Pierre pour cette présentation de la SOFIA. Comme ça, je n'ai plus à le faire. Donc, c'est vraiment très bien. En tout cas, je crois que ce qui est important dans ce que vous avez dit et qui cadre tout à fait avec cette soirée d'aujourd'hui, c'est cette parité. C'est-à-dire que nous sommes main dans la main, auteur-éditeur, depuis le seuil des années 2000, à l'occasion de la mise en place du droit de prêt du livre papier en bibliothèque en France. Et c'était une première, c'était une grande révolution, en réalité, non seulement dans le monde des sociétés de perception, mais tout simplement dans le monde de l'édition et dans la vie des auteurs, que cette entente qui s'est faite et qui a abouti au vote d'une loi très 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 importante, très essentielle, qui nous permet encore aujourd'hui de distribuer quelques millions d'euros aux auteurs et aux éditeurs à 50-50%. Donc ces dialogues auteurs-éditeurs, oui bien sûr, nous auteurs, nous savons ce qu'ils signifient, savons qu'ils sont synonymes d'écoute, de patience, de confiance réciproque et dans la durée. Et j'insiste beaucoup sur cette notion de réciprocité, car je pense qu'elle est essentielle, c'est le fondement essentiel de ce que l'on appelle parfois un couple, qui est un couple éclairé, qui peut être un couple conflictuel, mais qui est un vrai couple, et qui, comme tous les couples, vit sa vie. En tout cas, là est la source première de la création littéraire et de son exploitation commerciale. Et je crois qu'aujourd'hui, vous en avez tracé les grandes lignes, Pierre, face au nouvel écosystème du monde du livre, issu du développement et des nouveaux usages liés à l'Internet, ce dialogue ne cesse de s'intensifier. Et nous le vivons depuis 4 ou 5 ans, et nous voyons bien, nous avons vu en France en particulier, avec un accord sur le contrat d'édition qui comporte beaucoup de nouveautés, et un accord qui a fini par se faire. De même que nous avons pu travailler ensemble sur l'établissement d'une véritable réglementation sur la gestion des œuvres indisponibles du XXe siècle qui sont en cours de numérisation à raison de dizaines de milliers par an par la BNF. Donc ce dialogue, il existe. En réalité, nous savons tous que les éditeurs détiennent leurs droits d'exploitation des auteurs et que, à l'inverse, les auteurs dépendent de leurs éditeurs pour l'exercice de ces droits. Donc, nos intérêts sont étroitement liés. Et j'aimerais parler, plutôt que de couple, d'alliance. Je crois que cette alliance, elle est aujourd'hui extrêmement essentielle et son enjeu est considérable. Il ne concerne pas que la France, bien sûr, il concerne toute l'Europe. Son enjeu, c'est bien le renforcement et la consolidation du droit d'auteur face aux usages du livre et de la lecture, aux nouveaux usages du livre et de la lecture, et aussi face aux nouveaux acteurs. Le big, groupe de pression, de certains usagers peut-être, d'acteurs globaux surpuissants, qui opèrent un véritable transfert de valeur de la création culturelle au contenu exploitable. La production, je n'aime pas beaucoup ce mot, la création plutôt, de l'esprit est une valeur qui transcende le commercial et qui transcende l'exploitable. Or, aujourd'hui, le risque que nous courons tous, c'est bien une dissémination sans contrôle des livres, des œuvres, des contenus. Avec l'instauration d'une sorte de libre service, de la consultation ou de la lecture, qui permettent à tout un chacun d'accéder immédiatement, et Dieu sait si cette immédiateté est un danger probablement pour nous tous, immédiatement à toute ou partie d'une œuvre, à une consultation ou à une lecture, sans pour autant que la moindre contrepartie ne soit accordée à cette chaîne du livre qu'on évoquait tout à l'heure. En réalité, le livre représente une puissance commerciale beaucoup plus importante que ce que l'on pense en réalité. Et cette puissance, il faut pouvoir en tenir compte, il faut pouvoir la maintenir, et notre conviction est qu'elle ne se maintiendra que par la qualité des contenus, laquelle est en quelque sorte sanctifiée, soutenue, récompensée, vitalisée, maintenue en vie par le droit d'auteur. Le droit d'auteur, c'est d'abord notre liberté à nous créateurs, je suis écrivain, vous l'avez dit, et j'en sais quelque chose, notre liberté à nous créateurs d'écrire, de créer comme nous le voulons, comme nous l'entendons, sans être dépendant réseaux économiques ou financiers qui n'auraient rien à voir avec ce que nous voulons faire, sans être dépendant des pouvoirs établis. Notre liberté de créer. Et c'est de cette liberté de créer que dépend notre identité culturelle. Et cela dépasse le livre, cela concerne tous les domaines de la culture. C'est notre rayonnement intellectuel, c'est notre puissance économique qui est liée, qui sont en jeu. C'est notre image à tous. Et c'est évidemment tout cela dans les particularités concernant chaque pays européen. Aujourd'hui, parmi les 10 priorités de la Commission européenne, figure une réflexion conduisant à un projet de réforme du droit d'auteur. Plutôt que du beau projet de réforme, j'aimerais mieux penser à un concept d'adaptation, peut-être. Mais jusqu'où doit aller cette adaptation? Voilà quel est le point cardinal. Faut-il, par exemple, que les exceptions au droit d'auteur soient étendues, élargies? Je n'en suis pas certain. Faut-il aussi que la copie privée numérique soit remise en cause? C'est également une question qu'il faut se poser. Je signale d'ailleurs que c'est la copie privée numérique de l'écrit qui permet aujourd'hui à la SOFIA d'être partenaire de ces dialogues, et ce n'est pas rien. Enfin, j'aimerais pour terminer insister sur le fait que cette adaptation aux usages, aux nécessités de notre temps, si elle se fait dans l'intérêt des auteurs, des éditeurs, de tous les maillons de la chaîne du livre, les libraires ou les bibliothécaires, elle se fait aussi dans l'intérêt du lecteur. Et que le premier intérêt du lecteur, à mon avis, ce n'est pas forcément d'avoir accès à tout et n'importe quoi, d'autant plus que, si nous n'y prenons garde, l'accès privilégié des contenus, noyé dans une masse assez indistincte d'œuvres sur l'Internet, ne se fera qu'en fonction de priorités liées à des intérêts commerciaux au lieu des intérêts qualitatifs. L'intérêt du lecteur, c'est aujourd'hui, grâce à ce dialogue auteur-éditeur, grâce à ce droit d'auteur, de pouvoir se repérer, de pouvoir choisir, de pouvoir décider, de pouvoir savoir quel est le choix qu'il a à faire de ses lectures et de ce qu'il risque d'aimer, de ce qu'il risque de lui apporter, et le mot risque n'est pas juste, ce qui va sans doute lui apporter tout cet enrichissement qu'il est en droit d'attendre. Oui, aujourd'hui, le droit d'auteur est le fondement de la réussite de notre politique culturelle commune et également, bien sûr, individuelle au niveau de chaque État. Surtout, ne l'oublions pas, ne l'oublions jamais. Nous sommes ici pour en témoigner et notre espoir est grand. Merci à tous.
Alors, le moment est venu maintenant de vous faire voir, de vous faire entendre, comprendre ce que sont ces relations entre les auteurs et les éditeurs que nous venons d'évoquer avec Alain Absir. Et le premier duo est un duo français. Et c'est pour moi vraiment une grande joie d'accueillir Jérôme Ferrari. On ne se connaissait pas, on a fait connaissance et je crois qu'on se connaît déjà bien. Et c'est quelque chose qui va très vite. Et Marie-Catherine Vacher, son éditrice, qui appartient à une maison formidable qui s'appelle Actes Sud. Et ils vont dialoguer tous les deux. Mais pour dialoguer, il faut quelqu'un qui vous les présente, qui vous dise un peu qui elles sont. Et ce quelqu'un, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré à la télévision. Il a complètement changé la télévision et la culture en France. Je le dis parce que c'est vrai et que tout le monde le connaît. Et il met maintenant, avec la générosité qui est la sienne, tout son talent, toutes ses connaissances au service du Parlement européen. C'est Jean-Marie Cavada qui est membre du Parlement européen, membre français et vice-président de la commission juridique. C'est quelqu'un de très important dans notre pays. Je vous passe la parole, Jean-Marie. C'est un honneur pour moi de vous passer le micro.
Avec une présentation comme ça, je n'ai plus qu'à mourir sur le champ. Je n'aurai plus jamais autant d'honneur. Merci infiniment de votre indulgence. Mesdames, messieurs les auteurs, sans qui nous n'aurions pas de miroir et encore moins sans doute d'âme. Mesdames, messieurs les éditeurs, ceux qui travaillaient dans les entreprises d'édition et de diffusion, chers collègues parlementaires, depuis hier, il règne sur cette maison un souffle de culture inouï. Hier soir, la musique autour de M. Placido Domingo, d'une jeune lauréate de son concours qui s'appelle Operalia, et d'un groupe néerlandais tout à fait remarquable de musique contemporaine. Ce soir, l'écriture. J'attends pour demain, sans doute, Jeff Koons, ensuite des danseurs, ensuite, bref. Mais ça arrivera. Vous attendez de moi que je présente des personnes que je ne connais que de loin, et j'aurais vous demandé la permission de ne pas le faire. D'abord parce qu'ils le feront bien mieux que moi, c'est une évidence. Et puis aussi parce que je voudrais souligner deux ou trois choses, étant l'un des parlementaires, comme mes autres collègues qui sont là. Il se trouve que on m'a demandé de coordonner le groupe de travail qui se met en place sur le droit d'auteur. Donc ça tombe bien, puisqu'au fond je vais être votre partenaire et si possible votre esclave, et je ne m'en plaindrai pas si c'était le cas. Je voudrais parler de politique, non pas au sens des passions partisanes, qui d'ailleurs m'intéressent assez peu, que je ne sais pas très bien refléter. La vie est faite de quelque chose de beaucoup plus subtil et de plus profond que ça, mais de politique au sens d'organisation d'un continent dans lequel vous avez votre place. Ensuite, si vous me permettez, je laisserai Marie-Catherine Vacher et M. Ferrari se présenter eux-mêmes. Étant entendu, je vous ai demandé la permission de me retirer très rapidement ensuite, parce que j'ai la même obligation en ville tout à l'heure, avec un petit peu de retard, mais ils me pardonneront. Je voudrais vous dire que la séquence qui s'ouvre et qui remet sur la table la question du droit d'auteur n'est pas quelque chose d'anodin ni de circonstanciel. Depuis longtemps, des forces poussent pour privilégier les industries du tuyau par rapport aux industries, si je peux utiliser ce mot, l'artisanat en tout cas, des contenus. Pour fâcher mon auditoire, je dis souvent, quand il n'est pas du métier comme vous, que nous sommes dans la situation des Iraniens lors du coup d'État de Mossadegh, ou bien des Libyens, ou bien des Irakiens qui avaient dans leur sous-sol les richesses pétrolières qu'ils ignoraient plus ou moins, et qui ont enrichi non pas les peuples qui marchaient sur ces sols, mais qui ont enrichi les marchands de tuyaux, les transporteurs de bateaux, les raffineurs et les distributeurs. Nous sommes aujourd'hui, par rapport au continent américain et demain par rapport au continent asiatique, au pluriel, dans la même situation. Mais là encore, un peu comme les pétroliers, il se trouve que le commerce extrait d'un continent qui a cette richesse, et dans ce cas précis, il s'agit de richesse culturelle, est un commerce qui est une sorte de brigandage bizarre, puisqu'au fond c'est un des rares commerces qui se soustrait aux obligations commerciales, aux obligations fiscales, à l'expatriation des profits, à tel point même que l'administration américaine du Trésor, il y a quelques années maintenant, a demandé à l'un des exploitants avec qui nous nous bagarrons actuellement dans ce Parlement, de négocier et de restituer une partie de ses avoirs qui était de l'argent improductif, mais d'une telle masse que ça en faisait scandale, de les rapatrier en diminuant les pénalités possibles à condition qu'ils investissent sur le continent américain. Nous n'avons pas été, nous, Européens, capables de le faire. Nous avons perdu tout le hard, comme on dit, c'est-à-dire les industries digitales. Il n'y en a plus sur le sol européen, pratiquement. Les derniers Nokia sont partis dans des mains extra-européennes. Et c'est une raison de plus pour défendre avec beaucoup plus de sévérité ce que j'appelle les activités de contenu. Ces tuyaux ne voudront rien s'ils n'ont rien à mettre dedans. C'est une force pour nous. Ces tuyaux doivent accepter des règles pour commercer sur notre continent. C'est une deuxième chose que nous devons essayer d'imposer. La bataille est terrible parce que nous sommes, nous aussi Européens, traversés par des courants de pensée dont certains estiment que finalement la liberté d'accès au robinet devrait se traduire par la liberté d'accès au contenu. Rien ne vaut rien, si ce n'est le tuyau. Naturellement, c'est tout à fait, non seulement inacceptable, mais peut-être même aurons-nous, mes collègues et moi-même, à vous demander de vous mobiliser en tant qu'auteur, en tant qu'éditeur, dans des formes de présence qui pourraient ne pas être que sympathiques, parce qu'il faudrait bien que le législateur comprenne que c'est dans cette affaire-là, la loi qu'il doit faire est plus importante que les passions momentané qui s'exerce dans ce Parlement, et qu'il s'agit en fait de la survie de quelque chose qui est hautement politique, ce sur quoi je vais terminer mon intervention. Qu'est-ce que c'est que la culture? Il y a deux façons de le présenter. Il y a d'abord la façon qui aujourd'hui probablement terrasserait un peu mieux le dragon qui rôde autour de ceux qui veulent défendre la propriété des artistes, auteurs sous toutes leurs formes, et qui consiste à rappeler qu'en Europe, l'activité culturelle est un des moteurs de l'économie européenne. Je n'ai pas encore les chiffres globaux et vérifiés de l'ensemble du continent européen, mais j'ai déjà, depuis longtemps d'ailleurs, ce qui concerne la France. Et on sait aujourd'hui que la création artistique en France pèse plus lourd que l'industrie automobile en chiffre d'affaires, en haut de bilan et en emploi. Bien plus que l'industrie automobile. Donc, ne nous sentons pas honteux ou dans un système de demande, nous n'avons rien à revendiquer si ce n'est une existence puissante dans tous les sens du terme, y compris et d'abord économique. La deuxième chose que je voudrais vous dire, elle est plus pointue, elle est naturellement plus nuancée, mais elle est assez simple à comprendre. Nous avons les systèmes politiques de nos cultures et non pas l'inverse. Nous ne sommes pas des héritiers culturels de nos systèmes politiques. Nous sommes des héritiers politiques de nos systèmes culturels. Ce qui gouverne les peuples vient de ce qui leur fut enseigné. Et je voudrais que dans cette maison, nous puissions être beaucoup d'alliés, quelles que soient les formations politiques auxquelles ils appartiennent, quels que soient les pays qu'ils représentent, et ceci n'est pas gagné d'avance, notamment avec les pays nordiques, puissent accepter cette idée assez simple qu'on ne peut pas d'un côté défendre la charte des droits fondamentaux et de l'autre côté piétiner le droit d'auteur avec tout ce qu'il a produit jusqu'à présent. Et ce que je veux terminer, ce par quoi je voudrais terminer, c'est de dire la chose suivante. Il me semble aujourd'hui qu'il ne peut y avoir d'activité culturelle sans une économie de la culture. Et que l'essentiel de l'économie de la culture, elle est basée sur le droit d'auteur. Tout en découle. Tout se calque sur cette affaire. Et quels que soient les supports, je ne veux pas magnifier les supports contemporains, ça n'est jamais que des tuyaux, ça n'est jamais que des machines avec des algorithmes, ça n'est jamais au fond tout ça, que, comme la télévision, comme le reste, de l'électricité colorée ou numérisée, tout simplement. Ce qui est très important, c'est ce qui se véhicule dedans. Mais je voudrais aussi me permettre, en le disant, un petit reproche. On ne vous voit pas suffisamment dans les instances de débat politique, vous les principaux acteurs de cette affaire. Je parle d'auteurs et d'éditeurs. Bien sûr, il y a là une heureuse habitude qui vient d'être prise, mais nous sommes très seuls, nous les parlementaires qui nous battons sur ces sujets à bien des égards, et je vous prie donc de défendre comme nous essayons de le faire pour vous, ce qui est après tout le fondement de vos professions et pour lesquelles nous vous devons tant. La bataille sera sévère, nous avons besoin que vous soyez vraiment à nos côtés, et c'est vraiment ça que je voulais vous dire ce soir. Je ne suis qu'un des primus inter pares parmi mes collègues, ils le diront aussi bien et sans doute même mieux à bien des égards que moi, mais sachez quand même qu'il y a ici un épicentre de gens qui ne veulent pas se laisser faire sur ce sujet à condition qu'ils soient extrêmement bien aidés. L'amendement de demain est un amendement qui, en gros, entame la bataille avec Google. J'attire, puisque vous m'amenez sur ce sujet de l'amendement de demain, le fait que je ne céderai rien sur l'amendement numéro 84 qui met au centre de cette affaire, en effet, la pérennité du droit d'auteur, et pour lequel vous m'avez aidé, et je vous en remercie infiniment. Je voudrais terminer cette chose par une phrase très jolie que j'ai apprise ce soir, qui est dans la bouche de Madame Vacher, je crois, l'éditrice de Monsieur Ferrari. Et d'abord dire une chose, et ce sera les deux dernières phrases qui concernent ce qu'on attendait de moi. Quand j'ai lu la première fois votre sermon sur la chute de Rome, j'ai aussitôt instinctivement pensé à un livre merveilleux qu'une dame qui m'a honoré de son amitié, qui était Madame Jacqueline de Romilly, avait écrit sur le siècle de Périclès, pour décrire les turpitudes contemporaines, les voyous qui peuplaient la politique et Dieu sait quoi. Et puis là-dessus, je suis tombé sur votre sermon, et j'étais tellement ébloui, d'autant plus qu'il est fracassant. Il est très court. C'est pas les 980 pages de Thomas Piketty. Hein. C'est vraiment radical. Je l'ai lu dans la foulée. J'étais en vacances, je vous l'ai dit tout à l'heure, deux fois, pour être sûr d'avoir bien compris toute l'insolence forte que vous aviez pour décrire la chute, le déclin en tout cas, dans lequel nous pensons que bien des actions humaines politique ou autre ou économique entraîne notre continent. Et en vous lisant, je me disais que vous feriez merveille dès que vous seriez traduit, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est que l'Europe? Le fou, comme aurait dit le sage chinois, montre l'Europe comme un élément, un patchwork diversifié, éclaté, mais c'est une folie que de s'arrêter à cela. L'Europe est très riche, 28 fois, de choses qui sont assez différentes et même parfois très différentes. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il n'y en a pas un parmi nous qui, dans ses références culturelles, qui, dans, je dirais, son paysage dans lequel il puise ses pensées, ses sentiments, il n'y en a pas un d'entre nous qui n'est un auteur venu d'ailleurs, un musicien venu d'ailleurs, un écrivain venu d'ailleurs, un architecte venu d'ailleurs, bref, des artistes de création qui ont tous complété notre patrimoine, même national, et ils venaient de partout. Et c'est là-dessus qu'on doit construire vraiment une industrie. Je n'ai pas peur du mot, des contenus qui tiennent la dragée haute à l'industrie des acheminements que j'appelle moi des tuyaux. Madame Vacher a dit une chose formidable lorsqu'on a préparé ce travail que mon assistante ne me pardonnera pas de ne pas avoir reflété en entier. Elle a dit, quand j'ai lu un livre, il n'y a même plus de question, je dois l'éditer. Chapeau, parce que si j'étais un auteur, vraiment je serais comblé d'entendre et de voir une chose pareille, et la raison de laquelle vous travaillez, sans discriminer les autres, m'a toujours ébloui par son audace. Je tiens à vous le dire, vous répéterez ça aux actuels propriétaires, ça ne changera pas nos rapports de toute façon. Je vous souhaite une bonne soirée, vous n'oublierez pas qu'à un moment ou un autre, nous aurons besoin que vous vous manifestiez à nos côtés de façon extrêmement visible pour tous les récalcitrants et les aveugles qui peuplent ce Parlement, il n'en manque pas. Merci.
Merci, cher Jean-Marie. Nous serons là au rendez-vous, nous les éditeurs, avec nos auteurs. Alors Marie-Catherine et Jérôme, c'est l'heure, c'est le moment d'y aller. Faites comme si on n'était pas là, parlez-vous et faites-nous rêver.
Et merci d'être là. Il va nous lancer une première question, parce que là, sinon... on va.
Il était prévu qu'on nous lance une première question, effectivement.
Il faut nous lancer, hein.
La première fois, c'est Jérôme qui a envoyé son manuscrit et vous qui êtes allé le chercher.
C'est Jérôme qui a envoyé son manuscrit par l'intermédiaire de ce que j'aime bien appeler la société secrète, la communauté souterraine des auteurs qui font circuler les textes les uns après les autres. C'est par Pierrette Flotiot que le livre est arrivé, lui-même étant arrivé par une autre jeune écrivain, Carole Zellberg, qui connaissait Pierrette Flotiot. J'aime ces histoires-là, très simples. On va pas les chercher, ça circule, c'est pas du piston, ça peut être refusé, mais les livres, les œuvres circulent de cette manière un peu anarchique et sauvage, surprenante. Et c'est quand même ça le but du jeu, c'est d'être surpris dans ce métier par l'œuvre d'un artiste, pas seulement d'un auteur. Un écrivain, c'est un artiste.
En fait, j'avais le manuscrit que j'ai envoyé à Marie-Catherine, c'était en février 2006, et c'était le troisième manuscrit que j'écrivais. J'ai la chance, dans le métier d'écrivain, d'être vraiment passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et du coup, moi, mes deux premiers romans, un recueil de nouvelles et un roman, ont d'abord été publiés en Corse par une maison d'édition régionale. Et n'y connaissant rien à l'édition, j'ai mis quelques mois à me rendre compte que publier et imprimer étaient deux métiers entièrement différents. Et qu'en fait, on pouvait avoir un livre qui était imprimé avec une jolie couverture et qui n'avait aucune existence parce qu'il n'avait aucune chance d'arriver en librairie. Si je me rappelle bien, on trouvait mon livre à Ajaccio. Mais déjà, à partir de Corté, c'était compliqué. Quand on était dans le Nord et à Bastia, ils n'avaient jamais entendu parler de rien d'autre.
C'est l'Europe.
Quand j'ai écrit mon troisième roman, je me suis dit, voilà, je vais l'envoyer à un éditeur national et j'espère avoir le courage, si mon texte n'est pas retenu, de le laisser dans mon ordinateur. Et j'avais une amie qui connaissait Pierre Espletot, je lui ai demandé un nom. Je savais que c'était très difficile de faire lire un manuscrit, je lui ai demandé, donne-moi un nom. Et je l'ai envoyé à Marie-Catherine en février 2006, elle a dû me répondre en mars 2006 et depuis, on a publié cinq livres ensemble. Et nous ne sommes plus quittés. Et mon livre arrive à être à la fois à Ajaccio et à Bastia, ce qui est extraordinaire.
Après, j'ai envie d'éditer le texte que va nous raconter Jérôme. Je vais quand même le laisser plutôt lui raconter dans un premier temps quelle est son expérience de se retrouver dans la maison Actes Sud. Je vais quand même pas moi faire la promotion de la maison Actes Sud avec toute la conviction qui pourrait m'animer, mais est-ce que en tant qu'expérience d'arriver dans cette maison, parce qu'on n'est pas seul, ce que disait Jean-Marie Cavada tout à l'heure, cette idée qu'il faut avoir les conditions de production, c'est au niveau effectivement de la loi, c'est au niveau de notre travail au Parlement, c'est aussi au niveau d'une maison d'édition où une personne comme moi, qui est éditeur, se voit aussi donner tous les moyens d'accompagner un auteur sur la longue durée. Et je ne ferai pas offense à Jérôme en rappelant que dans les premiers temps de notre collaboration, les deux premiers livres que nous avions publiés avec conviction ensemble n'ont pas rencontré immédiatement l'adhésion d'un vaste public.
Je crois qu'on est à une époque où essayer de parler de ce qui n'est pas immédiatement quantifiable devient compliqué. Donc du coup, pour réussir à le faire, autant rester au niveau le plus proche du concret possible, et tant qu'à faire, s'appuyer sur des éléments quantifiables que je peux exposer sans honte, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment passé avec une chance inouïe dans mon parcours de romancier par beaucoup d'étapes que ne connaissent pas tous les romanciers. J'ai publié 5 romans chez Actes Sud. D'abord, en ce qui concerne la relation entre l'éditeur et l'auteur, qui là pour le coup est du domaine du purement non quantifiable, j'avais arrêté d'écrire depuis 3 ans, et quand je suis arrivé à Actes Sud, j'ai écrit quasiment un roman par an, ce qui inquiétait un peu la maison en termes de publication. Donc j'ai publié 5 romans chez Actes Sud. Les deux premiers ont été publiés, ont été vendus, je pense, à 1400 exemplaires. Donc le premier avait eu un accueil critique assez considérable, parce que j'avais eu 2 articles.
Oui.
Quant au deuxième, il avait eu un accueil critique comme une plaie ouverte dans mon existence, avec un nombre d'articles critiques que je me rappelle très bien, parce que c'était 0. Il avait eu 0. Après, mon troisième roman s'est mieux vendu, il est monté à 7-8 000, mon quatrième chez Actes Sud à 32 000, et puis après j'ai eu le prix Roncourt. Et cette litanie de chiffres est rigoureusement dépourvue d'intérêt, à ceci près qu'elle a été pour moi un critère de ce que je vivais avec les gens avec lesquels je travaillais. À la fin de quand j'ai publié mon deuxième roman chez Actes Sud et qu'on a vu qu'il se vendait très très mal, j'ai appelé Marie-Catherine ici présente, en prenant un ton à la fois désolé et contrit, en lui disant « je comprends très bien que ce n'est pas la peine que je vous envoie un manuscrit de plus ». Et elle m'a répondu, vous êtes vraiment idiot, vous occupez-vous d'écrire des choses et pas de ce que vous vendez. Évidemment, en ce qui me concerne, maintenant je trouve qu'avoir eu la chance de rien vendre et donc d'être une catastrophe en termes d'investissement hein, pour une maison d'édition, et de savoir qu'on avait quand même sur cette relation-là, qui était, ça pour moi clarifié l'ensemble de nos rapports après. Et du coup, je sais que si on a été gentil avec moi quand j'ai commencé à en vendre beaucoup, c'était juste la suite logique d'une relation qui avait commencé où on était gentil avec moi quand je n'en vendais pas du tout. Et c'était très important. Et je ne doute pas que sans cette attention-là, j'aurais été trop déprimé pour écrire les titres qui ont finalement fini par se vendre.
C'est compliqué cette histoire parce qu'on n'est pas là non plus pour se lancer des fleurs et faire un exercice d'admiration mutuelle, mais en même temps, ce que disait Jérôme à propos de la confiance qu'on lui a faite, les fondements, enfin les fondations de cette confiance sont extrêmement simples, et le problème pour un éditeur, c'est pas de découvrir, c'est de durer, d'avoir le temps, de donner le temps au temps, de faire en sorte qu'on puisse prolonger cette confiance justement en deçà et au-delà du quantifiable. Mais qu'est-ce qui a fait dans notre cas, enfin dans le cas que nous représentons ici, c'est que jamais il n'a été mis en doute, il n'a fait aucun doute que nous avions en la présence de Jérôme Ferrari un très grand écrivain. Et si effectivement, et qu'est-ce que c'est un très grand écrivain? C'est personne d'abord, il n'a pas forcément de nom, mais c'est quelqu'un dont l'œuvre, dont même dans ses commencements, s'impose avec une sorte d'autorité souveraine et dont malheureusement, effectivement, il faut après tenir compte du temps que nous avons, le devenir des choses n'est pas exactement équivalent toujours à notre enthousiasme. Il faut rendre l'enthousiasme effectif, comment dirais-je, le rentabiliser en quelque sorte sous la forme d'une forme de succès. Mais la base de la relation, c'est la confiance dans la vertu littéraire extrême de l'auteur et de son texte. C'est cette Je compare souvent notre métier à celui d'un galeriste en termes de peinture, où nous choisirions un jeune artiste et nous déciderions de l'exposer. Et ça, nous sommes dans un monde de reproductibilité avec le livre, mais nous sommes dans le même engagement par rapport à ce que nous, par rapport à la source de notre travail initial. Voilà.
Je voudrais ajouter que moi, tel que j'ai vécu ce qui s'est passé avec Actes Sud et avec Marie-Catherine, la question n'est pas du tout celle d'une reconnaissance où on vous dit vous êtes un grand écrivain, vous ne vendez pas, mais ça viendra. Ça n'a vraiment rien à voir avec ça. La question est beaucoup plus simple. C'est, tu es un éditeur, c'est-à-dire que quel que soit le nombre d'exemplaires que tu vends, tu peux publier. Et ça n'a rien à voir, parce que c'était vraiment pas le cas, hein, avec une espèce de renvoi d'image qui comble une espèce de tendance au narcissisme qu'on aurait, et c'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est le fait de la confiance, c'est de savoir, voilà, j'ai pas à m'inquiéter de la puissance commerciale de ce que je fais. Et du coup, franchement, j'ai vécu tous ces échecs commerciaux comme des petits ennuis. Après, je me disais quand même, t'as de la chance, tu vas pouvoir proposer ton autre texte sans te poser ce genre, sans te poser ce genre de questions. Et donc, j'espère être choisi avec des critères qui sont précisément pas des critères commerciaux. Personne ne crache sur les critères commerciaux, et spécialement pas les éditeurs, évidemment. C'est pas, et les auteurs non plus. Hein. Mais c'est comme quelque chose qui vient en plus. Et finalement, qui ne vient que parce que, en amont, on est dans une ambiance où il est possible d'écrire sans se poser ces questions-là. Pouvoir écrire sans se poser ces questions-là, ça c'est vraiment le luxe.
C'est ça le droit d'auteur. C'est pouvoir, c'est en liaison avec la problématique du droit d'auteur, parce que finalement, cette question du contrat qu'on passe avec l'éditeur, c'est justement cette face, enfin c'est la manière la plus saine qu'on ait les uns et les autres de travailler ensemble aussi. Il y a pas de ce contrat qu'on passe, c'est un contrat de droit d'auteur, mais c'est un contrat moral aussi également. Il y a une base fondamentale qui fait que il y a pas d'arnaque dans ce travail-là. Il y a pas de mensonge. Dans le meilleur des cas, on est de toute façon finalement comptables les uns vis-à-vis des autres, soit de notre croyance, soit du texte que l'on propose. Enfin, il y a une sorte de réciprocité, et je dirais qu'il fait suite à l'estime mutuelle qu'on peut
aussi supporter dans la relation. Ouais. La fin de ce que voulait dire Marie-Catherine, que j'ai parfaitement entendu moi-même. Après, le contrat est compliqué. C'est un contrat commercial, entre l'éditeur et l'auteur, entre la maison d'édition et l'auteur. C'est un contrat commercial qui ne peut marcher que parce qu'il dépasse les usages commerciaux. Et j'ai assez l'habitude de ce genre de contrat, moi, parce que je suis professeur, et que la relation d'enseignement est tout aussi irréductible à un type de rapport dans lequel on pourrait l'enfermer. Voilà, un élève, il a droit à ce qu'il ait un cours tous les jours, sans trop d'absentéisme, et chacun sait bien que la relation d'enseignement excède largement ses obligations contractuelles. Bon, mais je vois vraiment très très fort le rapport avec l'éditeur. Et j'ai toujours pris soin, en ce qui me concerne, beaucoup de facilité chez Actes Sud, que les questions qui sont d'ordre contractuel économique ne prennent pas le pas sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire le rapport humain.
Merci Marie-Catherine et Jérôme. Peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ont des questions à poser.
Moi j'en ai une pour commencer, parce que vous nous avez expliqué cette relation, comment naît un premier livre et une œuvre, est venu s'intercaler un prix Goncourt. Un prix Goncourt, c'est des centaines de milliers de livres, d'exemplaires vendus. Ça crée une relation particulière avec la maison d'édition. Est-ce que ça change quelque chose dans la relation entre l'auteur et son éditeur, au-delà de ce que Jérôme vient de dire.
Donc j'aurais, pour moi, Catherine, pour moi ça n'a rien. Mais
Non plus. Et justement, le prochain livre de Jérôme sera publié au mois de mars. Et nous avons eu la joie de nous apercevoir que nous étions dans un rapport au texte et à la publication qui n'avait pas du tout été altéré ou aliéné par un événement aussi prédateur malgré tout sur un plan symbolique. Donc c'est aussi du travail, hein, ça, de rester dans cette enfance, enfin dans cette, non pas innocence, mais dans cet aspect un peu primordial de la relation. Il faut non pas s'y efforcer, mais s'y tenir.
Et je pense qu'on s'y tient d'autant plus facilement que c'était pas, je sais pas, si c'était arrivé avec mon premier ou mon deuxième roman, ça aurait été sans doute moins facile, mais je me suis posé la question. J'ai eu toutes les réponses que je voulais, mais je me suis posé la question. Ma crainte était que, au prétexte du prix, je puisse me mettre à produire n'importe quel texte et que tout le monde trouve que c'était génial. Et bon, ben voilà, c'est pas le cas, c'est très bien.
En fait, je voulais savoir comment se passe le premier coup, puisqu'on a entendu je sais pas, le coup de foudre réciproque, mais est-ce que pour un premier roman, est-ce qu'on touche une somme d'argent même avant que le roman soit publié? Voilà.
Alors, c'était pas un coup de foudre réciproque, c'était. Moi, je préfère les histoires longues au coup de foudre. Hein. C'est une question de tropisme, mais je me méfie beaucoup du coup de foudre. Et donc, je vais répondre à votre question en précisant bien que je ne parle que à partir de mon expérience personnelle, qui est celle d'un unique éditeur en France, qui est Actes Sud, et que je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, quoique ça me semble à peu près cohérent. En fait, quand on rend le manuscrit, on nous donne un avaloir. L'avaloir est une avance sur droit d'auteur qui ne peut pas être amputée si moins de livres se vendent. Et si donc les droits d'auteur réels ne couvrent pas l'argent qui a été avancé. Autrement dit, c'est une prise de risque de l'éditeur. Après, les choses évoluent et donc j'ai eu un avaloir à chaque contrat. Et alors, les questions d'argent sont aussi des questions affectives et dans un sens. Et c'est vrai que moi, constater que je ne vends rien et qu'à mon deuxième roman, on me propose exactement le même avaloir que pour le premier, c'est quelque chose qui m'a touché. J'essaie bien de comprendre que ce n'est pas une question d'argent, mais ça signifie, voilà, cet argent est à fond perdu, si on vend moins. Donc c'est quelque chose qui est encore très limite et très frontalier, mais c'est comme ça que ça se passe, normalement.
C'est une marque de confiance et c'est le cadre. Et c'est pour ça que je trouve que même si la valeur d'un premier roman n'est pas très considérable, il met à distance la mauvaise partie de l'affectif. Et il pose les choses de sorte clairement, de manière qu'on soit aussi dans une relation saine. Et l'argent, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça peut être la pire des choses, mais c'est aussi un symbole. On sait très bien ce que ça signifie en psychanalyse ou partout. Voilà. Donc, c'est ça qui est important, cette clarification. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres qui... Non ?
Alors, nous allons poursuivre... ces dialogues, nous allons changer de langue. Dans l'Union européenne, il y a 28 pays, il y a 26 langues différentes. On a entendu le français, on va maintenant entendre l'anglais. Et je voudrais inviter donc Madame Mary Honeyball, qui nous invite ce soir. C'est elle qui nous a permis d'avoir cette belle salle pour vous recevoir tous, membres du Parlement, éditeurs, auteurs ou institutionnels, amis. Et donc, je voulais vraiment vous remercier de nous accueillir. Vous êtes membre britannique du Parlement européen et vous avez la lourde tâche ou le grand bonheur de nous présenter Jonathan Coe et son éditrice Joanna Pryor. Merci.
And thank you so much for the Federation of European Publishers for inviting me to introduce.
Donc merci, merci à la Fédération de m'inviter à présenter nos deux invités britanniques. Je pense que vous aurez une discussion très intéressante et vivante avec eux. Avant de les présenter, j'aimerais juste vous dire que je suis très fière de les accueillir tous les deux. Je suis très fière d'être là moi-même. Je voulais également réitérer ce que Jean-Marie Cavada a dit sur les droits d'auteur. C'est très important que nous, en tant que membres du Parlement, il est important que nous fassions la bonne chose pour vous. Vous n'avez pas besoin de moi pour le dire, mais les droits d'auteur sont ce de quoi vous vivez. Donc c'est une protection de la propriété intellectuelle. Ça garantit la vie des créateurs, des auteurs. C'est clair de la perspective de moi et de mes collègues. Nous voulons nous assurer que nous vous permettons de vivre et que vous continuez à vivre parce que le contenu et ce que vous faites sera protégé. Ça doit être le principe qui nous guidera en nous occupant de ce sujet très épineux. Donc je suis très contente de vous présenter nos deux invités qui sont venus du Royaume-Uni aujourd'hui. D'abord, nous avons Jonathan Coe. C'est un écrivain qui a été récompensé plusieurs fois. Il a écrit des romans et des séries télévisées. Il est devenu très célèbre aux États-Unis, en Angleterre. Excusez-moi. Donc un livre et une série télévisée qui s'appelait The Carve Up, What a Carve Up. Donc ça se situait dans l'histoire, mais ça parlait en fait de la vie politique de l'époque des années 80. Donc Jonathan a publié son premier roman, La femme accidentelle, en 87. Donc le roman suivant, What a Carve Up, il a été récompensé à plusieurs reprises. Donc, La maison de sommeil a été le livre suivant et cela a été publié en France également. Ça a été aussi récompensé par un prix, du meilleur auteur. Il a publié 9 romans en tout. Il a écrit une bibliographie d'un romancier britannique, D.H. Johnson. Cela a été récompensé par le prix Samuel Johnson. Donc, il a publié également une collection d'autres textes. Il a écrit des fictions pour enfants. Jonathan Coe a été également juge pour le prix Booker en 1996. Il a été membre des jurys pour d'autres prix, par exemple au Festival d'Edinburgh. Sa carrière est longue et très distinguée, donc ils sont vraiment très fiers et très contents qu'il soit venu ici pour nous parler ce soir. Donc je pense qu'il vous répondra à vos questions également. Donc notre deuxième invité, c'est Joanna Pryor, qui est PDG de Penguin General. Je pense que tout le monde connaît la maison d'édition Penguin. C'est une marque d'édition totalement iconique en Angleterre, vraiment. C'est une société qui a été fondée en 1935. Et aujourd'hui, il fait partie du groupe Penguin Random House. C'est une maison d'édition très importante. Avec une influence très importante dans tout le monde anglophone. Joanne fait partie de la maison depuis plus de 15 ans. Avant, elle a été rédactrice en chef au magazine du Sunday Telegraph. Elle a commencé sa carrière par contre. Ah, pardon, je n'ai pas entendu. Donc, elle a une longue carrière avec énormément d'expérience. Elle s'intéresse beaucoup aux auteurs féminins. Elle fait partie de la campagne 2014 pour la lecture féminine. Elle dit qu'elle est très motivée pour s'assurer, enfin, ce qu'elle veut, c'est que les écrivains femmes soient récompensés de la même manière que les hommes. Quand vous parlez à Johanna sur ses accomplissements, elle parlera vous de la fiction féminine et le fait de mettre les femmes en avant. Elle a porté le livre le plus récent de John le Carré. Il est numéro un dans les meilleures ventes. Elle contribue également aux célébrations pour le centenaire de Charles Dickens. Donc ces auteurs ont également été récompensés par de nombreux prix. Donc je suis très contente de vous présenter maintenant Johanna Pryor et Jonathan Cope. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Donc, je m'y lance directement avec une question très similaire à celle qui a été posée déjà. Donc, je voudrais que vous décriviez à tout le monde ce que Penguin fait pour vous. Nous sommes heureux d'être votre éditeur pour tous les romans. Nous sommes fiers. Donc j'aimerais que vous nous diriez, j'aimerais que vous nous dites ce que ça fait d'être auteur chez nous. Donc merci, c'est déjà très intéressant pour moi de venir ici à Strasbourg et de parler parler à d'autres auteurs et d'autres éditeurs. J'ai découvert qu'il y a des gens qui pensent que certains auteurs peuvent survivre sans éditeur, ce qui implique qu'ils n'ont pas besoin d'être rémunérés ni d'être protégés. Je pense que c'est séduisant comme idée, mais je pense que, en ce qui me concerne, c'est pas mon cas. Moi, je suis chez Penguin depuis à peu près 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'écris un roman. Ça me prend à chaque fois 3 ou 4 ans. Donc, je vis sur l'avance donc de Penguin. J'espère qu'après, ils éditent le livre, ils l'améliorent. Et ils enlèvent les erreurs et les incohérences. Après, ils me fournissent une couverture, ils m'ont accompagné de marketing, ils organisent des tournées publicitaires. En somme, ils éditent le livre. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Cette idée que de l'auto-édition, me paraît être assez bizarre comme idée. L'idée qu'un auteur peut télécharger son travail sur des plateformes telles qu'Amazon ou Google ou je ne sais qui, je comprends la séduction de cette idée, parce que c'est vrai que c'est très frustrant d'écrire des choses et de penser que personne ne le lira jamais. Mais ça, ce n'est pas de la publication, ce n'est pas de l'édition, ça. N'importe qui peut faire ça, je pourrais le faire si je voulais, mais comme ça, je prendrais 100% des royautés, mais je sais que ça ne serait pas autant que que je pourrais avoir si je me fais éditer par une maison d'édition sérieuse qui travaille correctement. Donc merci d'avoir dit cela. C'est ce qui fait vivre nous fait vivre chez Spangoon. Nous avons les compétences pour faire. C'est une valeur ajoutée. Je pense que cette notion de télécharger, quand on me demande de décrire ce que fait un éditeur, je dis que je prends le travail de l'auteur et je le transmets à un lecteur. Je fais le lien. Nous mettons ensemble le lecteur et l'auteur, et ça implique de faire un certain nombre de tâches. C'est quelque chose de complexe, parce que maintenant il y a de nouvelles manières de lire. Je pense qu'il y avait une époque où on pouvait imprimer un livre, on le donnait à des libraires locaux, ils mettaient ça dans le magasin. Ensuite, il y avait une conversation, mais après, les gens décidaient d'acheter. Je pense que maintenant, il y a différentes manières d'être au courant de ce qui est édité. Puis, les gens ont différentes manières de lire, différentes formes sous lesquelles ils lisent des livres. Donc, ce lien entre le lecteur et l'auteur est devenu plus compliqué. Donc je pense que toutes ces tâches que nous accomplissons, donc là il y a le graphisme pour la couverture, mais il faut mettre quelque chose qui passera bien sur une page Amazon également. C'est vrai que après, maintenant, il y a les mots-clés. Donc, il faut dire Jonathan Coe, marrant, Jonathan Coe, récompensé. Ce sont des mots-clés qui permettent aux gens de le trouver en ligne. Il y a des exigences qui sont attachées à tout cela, et c'est nous, les éditeurs, qui fournissent tout cela maintenant. Je pense qu'il y a une partie fondamentale de ce que nous faisons en tant qu'éditeur qui reste la même chose que ça a toujours été, c'est-à-dire la relation entre l'auteur, vous, Jonathan, et nous. Donc il y a la relation à partir du moment où le manuscrit arrive, le travail qui commence. Ça se passe derrière une porte close, mais est-ce que vous pourriez dire quelques mots sur votre éditeur long terme chez Penguin? Comment ça se passe entre vous? La valeur qui vous amène? Oui, en fait, l'éditeur, au niveau de la maison d'édition, a un rôle très important. Donc, il y a une relation avec ce que fait celui-là est l'auteur. On ne peut pas exister l'un sans l'autre, mais donc, c'est un lien entre ces deux mots. Donc, lui, ce qu'il fait n'est pas entièrement axé sur le commercial. Bon, c'est sûr que le livre devra survivre sur le marché public, il faut mettre ce livre sur ce marché, c'est quelque chose de difficile. Il y a des considérations qui rentrent en jeu, mais en même temps, ces gens-là, ils ont un sens créatif, ils ont une expertise qu'ils ont lu et relu des livres, ils sont rentrés dans des relations avec des auteurs, de nombreux auteurs. Ça fait une expertise sur laquelle on ne peut pas mettre un prix. Sans cela, le rôle éditorial au niveau des des grandes maisons d'édition telles que Penguin. Cette expertise est parfois marginalisée, ça perd de sa valeur, ça perd sa place dans l'écosystème entre le marketing et les ventes. Si ça se passe comme ça, donc on a un problème. Les pressions du marché libre deviennent plus en plus intenses, mais je pense que on n'en est pas encore là. Quand j'ai parlé de Penguin, j'ai utilisé le mot en anglais corporation, c'est-à-dire la grande société. C'est pas tout à fait vrai que tous mes livres ont été édités chez Penguin. Les tout premiers étaient publiés, étaient édités dans une petite maison indépendante. Mais je dois dire que les relations personnelles que j'ai eues dans la grande maison ont été meilleures que ce que j'avais dans la petite maison d'édition. Donc ce n'est pas toujours le cas que le petit est beau. C'est vrai qu'il y a des petits éditeurs qui sont très bien, et puis il y a des grandes corporations, des grandes sociétés qui sont aussi des rapaces, mais d'autres ne le sont pas. L'autre chose, je pense, dont on doit parler, c'est l'argent. Donc c'est clair que nous payons une avance. Ça fait une grande partie de ce que fait l'édition traditionnelle. C'est un investissement. Nous payons pour un travail. Parfois, même pas un mot n'a été écrit. Parfois, il y a un manuscrit entier, mais c'est rare quand même. Donc, Jonathan, à quel point c'est important que nous mettons notre confiance en vous. Donc, la maison d'édition investit sur vous avant que le travail soit fait. Est-ce que c'est important? Donc oui, c'est très important parce que Penguin prend le plus grand risque. Moi, avec moi, ce qui se passe, c'est souvent c'est que je montre un travail en cours, une portion d'un livre, je le montre. Je pense, dans certains cas, c'est un quart ou même qu'un dixième d'un livre. Donc, quelqu'un chez Penguin va juger mon travail et à partir de là, il prendra une décision de me faire une avance d'un tel montant. Donc après, ce n'est que la spéculation, si vous voulez. Le risque, c'est au niveau de Penguin que ça se passe. Et s'il ne le faisait pas, moi, je ne pourrais pas vivre. Je ne pourrais pas faire vivre ma famille pendant les 3 ou 4 ans qu'il me faut à chaque fois pour écrire un livre. Si... Donc c'est clair que les créatifs, les artistes ne vivent pas de rien. Donc si vous enlevez l'infrastructure économique qui soutient les auteurs, le contenu va disparaître. Donc nous serons appauvris. Donc vous verrez que vous êtes publié, vous êtes édité partout dans le monde, surtout en Europe. Est-ce que c'est important pour vous? Quelle relation avez-vous avec les éditeurs européens? Est-ce que vous leur rendez visite? Est-ce que vous faites la promotion dans ces pays? Je passe autant de temps que je peux à faire la promotion en Italie et en France pour la simple raison qu'on y mange mieux. C'est pour ça que mes livres se vendent mieux en Italie et en France qu'en Angleterre. C'est qu'à chaque fois qu'on m'invite, je m'y rends. Je viens de faire une apparition dans un événement à Naples, dans une librairie. Donc, on était sur le front de mer, en train de manger des fruits de mer. Le téléphone a sonné. Et c'était quelqu'un de Penguin. Et et on vous a demandé de vous rendre à Stockport, dans le nord de l'Angleterre, dans une bibliothèque. Elle m'a demandé si j'étais intéressée. Et j'ai dit, bon, je ne veux pas offusquer les gens de Stockport, mais je préfère rester à Naples. C'est... Donc ma relation avec l'Europe est intimement liée à la cuisine, à vrai dire. Donc, Jonathan, je crois qu'on arrive à la fin. Oh, désolé, je crois qu'il y a quelqu'un de Stockport dans la salle. Donc nous sommes... tirons vers la fin, je pense que je voulais... Je vous demande quelque chose. Ce que vous travaillez, sur quoi vous travaillez maintenant. Donc, votre dernier livre se passait à Bruxelles. So, qu'est-ce qui peuvent attendre vos lecteurs? Donc, je suis en train d'écrire un livre qui se passe au Royaume-Uni. Ça commence en 2003 et ça va continuer, enfin l'histoire se continue, se prolonge jusqu'en 2016. Je n'ai pas écrit sur la politique britannique depuis longtemps parce que je ne trouvais pas le point d'entrée. Le réalisme social que j'utilisais ces dernières années ne semblait pas correspondre à la situation politique britannique à ce moment. Donc l'ascendance de David Cameron et UKIP, et, donc ça m'amenait vers le roman d'horreur. Donc je commence à attaquer le territoire de Stephen King afin de vous expliquer en Europe les horreurs de David Cameron et UKIP. Alors, on a peut-être des questions. Personne?
Excusez-moi. Je me permets de prendre le micro, alors je n'ai pas de questions pour nos amis anglais. C'est une petite intrusion dans cette soirée, des questions un peu urgentes. Je voulais m'adresser à tous les députés qui sont là ce soir. Demain, nous avons un vote sur une résolution sur les droits des consommateurs dans le marché unique numérique. Dans cette résolution, le paragraphe 13 aujourd'hui, dans sa rédaction telle qu'elle est proposée, ne fait mention que des droits des utilisateurs et des consommateurs, sans aucune considération pour les créateurs et tous ceux qui les soutiennent dans leur travail de création. Comme c'est l'amendement qu'évoquait Jean-Marie Cavadal, il y a un amendement, c'est l'amendement 84 qui est déposé sur ce projet de résolution. Cet amendement réintroduit les droits des, la défense des propriétaires des droits. Il réintroduit la notion de la valeur de l'œuvre dans la chaîne de valeur de l'industrie culturelle. Et donc, je me permets cette interruption pour vous demander, vous encourager demain à voter cet amendement 84, donc numéro 84, sur la résolution sur le marché unique numérique. Merci à tous.
Je vais interrompre quelques instants votre dîner pour introduire le troisième duo de ce soir, qui est dans une troisième langue par rapport à ce que nous avons entendu jusqu'à présent, la langue allemande. Et je vais demander à Sabine Ferreyen, qui est... Nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines pour travailler sur un thème qui touchait l'éducation, l'entreprise et la jeunesse. Ce sont des thèmes que l'on partage. Et Sabine, qui est députée du Parlement européen, allemande, va nous présenter Doris Grünbein et son éditeur Thomas Spahr. Sabine, c'est à vous.
Ja, zunächst einmal möchte ich Ihnen auch von ganzem Herzen ein herzliches Willkommen hier im Europäischen Parlament entgegenrufen.
Tout d'abord, j'aimerais vous présenter également au Parlement européen. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que la soirée continuera à être divertissante. Je pense que ça a été très intéressant de voir tous ces différents aspects. Je ne vais pas vous faire tout un discours politique. La plupart a été dit de la part de mes collègues. Permettez-moi de dire que... Et je suis réjouie que plein de personnes sont présentes qui sont concernés beaucoup par les droits d'auteur des membres de différents comités. Je trouve que c'est très important justement puisque je pense qu'il y a une réforme pour les droits d'auteur qui non seulement est important pour le comité de la justice et qui et non seulement pour le marché intérieur, puisque nous devons trouver des solutions pour une solution équilibrée et puis juste pour tout le monde. Voilà pourquoi je trouve que c'est une très bonne chose que nous continuons à travailler ensemble sur cette approche, que nous discutons ensemble. Et justement, nous avons maintenant la possibilité de voir quelle est la relation entre les éditeurs et les auteurs, effectivement, puisque cela fait toute une différence de publier, d'acheter un livre sur Amazon ou d'acheter un livre en tant qu'éditeur, puisque j'ai une certaine responsabilité pour mon éditeur. Et l'éditeur aussi a en revanche beaucoup de confiance en l'éditeur. C'est donc une relation passionnante, très intéressante, que l'on va présenter également du côté allemand. Je vais vous présenter Doris Grünbein, qui est née en 1962, qui a grandi à Dresde. Et maintenant, nous fêtons le 25e anniversaire de la chute du mur et la réunification allemande. C'est donc un père de personnes, un partenariat de personnes très particulier, puisque Doris Grünbein, très tôt, a ressenti le besoin de se sentir libre. Lui-même, il a dit qu'un des livres les plus importants qui a eu beaucoup d'influence sur lui était un livre d'enfant, un livre qui est parmi les meilleurs que je connais. C'est « Le monde fabuleux » de Nils Holgersson, de Zelma Lagerlöf. Vous savez peut-être pourquoi ceci est un livre aussi important pour un jeune allemand, puisqu'il a dit qu'à l'époque, quand il était enfant, c'était un esprit de liberté qui soufflait dans ce livre. Cet livre l'amenait dans un monde inconnu. C'est quelque chose qui a beaucoup ému les Allemands. Je m'appelle, à l'époque de la chute du mur, je n'y croyais pas mes yeux. J'étais excitée de le voir, j'étais émerveillée de voir, et ceci était un sentiment qui était réciproque de l'autre côté du mur. Il y a un espoir qui a été nourri pendant des années. On a travaillé ensemble dans le monde politique pour le rendre possible, mais cela s'est fait très rapidement, cette chute du mur. Doris Grünbein en parle dans son livre Jour de novembre, qu'il a été écrit en 89. Je ne vais pas citer le livre, il pourrait le faire mieux que moi. Mais c'est exactement ce sentiment-là, c'est le sentiment d'une promesse. Une promesse qui a été faite en Allemagne, qui a fait bouger les choses, qui a fait avancer les choses. Personne n'y a cru à l'époque. Il y avait cette vague de liberté, ce besoin de liberté qui se ressentait un petit peu partout, qui se reflète dans ses œuvres poétiques, dans son œuvre littéraire. Donc je me réjouis qu'il est parmi nous aujourd'hui. Doris Grünbein est une des personnes qui n'a pas voulu attendre le dernier moment de la chute du mur. Il a eu beaucoup de courage, et ce n'était pas facile d'ailleurs, d'aller de l'autre côté de la frontière. En 1984, avec sa collection de poème a reconnu un grand succès. À 33 ans, pardon, il a reçu le prix Georg Büchner, et il est partenaire de l'Académie allemande pour les lettres ainsi que de l'Académie des arts de Berlin. Depuis 2008, les Français connaissent, le savent peut-être, il est aussi membre de l'Ordre du Mérite. Ses poèmes ont été traduits même en chinois. Ses poèmes sur les jours de novembre peut-être ne le sont pas à cause de la censure. très tôt, il a noué des liens avec la maison d'édition Zurkamp, ce qui a été forcé par sa relation avec Heiner Müller en 1986 à Berlin, qui a recommandé Grünbahn au chef de Zurkamp. Zurkamp a écrit une lettre au ministère de la Culture de la, l'ancienne RDA, et il a fait venir Grünbahn au Salon du Livre à Francfort. C'était le début de la carrière de Grünbahn, qui est devenu un des poètes les plus importants de l'Allemagne. Je me réjouis qu'il est présent parmi nous aujourd'hui. Et puis je vais parler aussi de Thomas Spahr. Thomas Spahr, qui lui a aussi une histoire très mouvementée, puisque il n'a pas toujours vécu en Allemagne. Il a également vécu à Jérusalem entre 90 et 98. Il a été depuis 2006, il est vice-PDG du Zurkamp Verlag. La maison d'édition Zurkamp m'a accompagné également. Les lycéens allemands connaissent tous les livres de la maison d'édition Zurkamp. On a dû les lire, on a voulu les lire, après ça dépend. On s'est tous référencés aux œuvres de soutien sur les œuvres littéraires de Zurkamp. Donc je remercie Zurkamp de m'avoir aidé à comprendre les œuvres littéraires. Et à l'époque, je ne m'intéressais pas autant pour les livres que maintenant. Je me réjouis que vous êtes là. Vous ne voulez pas seulement vendre les livres, vous voulez aussi nouer des bons contacts avec les auteurs. Cette relation est très importante. Construire la confiance, c'est ce que vous faites. Je souhaite la bienvenue à M. Spahr et M. Grünbahn. Bonsoir, mesdames, messieurs. Peter Zurkamp, le créateur de la maison d'édition. Le micro ne semble pas marcher. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon, alors le créateur de Zurkamp a toujours parlé du respect de la maison d'édition vis-à-vis les êtres humains. Mais qu'est-ce que ça veut dire justement? J'ai compris ça en travaillant avec le fondateur de la maison Zurkamp. Dites-nous comment était votre premier voyage en octobre 1988 quand vous êtes allé au Zurkamp Verlag. Je me rappelle de cette image à l'assemblée du Salon du Livre. Je pense que c'était votre premier voyage à l'ouest de l'Allemagne. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bon, alors le grand respect de l'éditeur face à l'auteur. Un respect haut comme une tour. Je ne sais pas si ça vaut également pour les autres maisons d'édition. Le fondateur de la maison Zurkamp était très convaincu par ses auteurs. Il avait beaucoup d'estime pour eux. Maintenant, cela semble presque exagéré. Mais qu'en était si l'ensemble des acteurs faisaient la grève? Si les créateurs d'œuvres d'art faisaient la grève, les journalistes en parleraient, les politiciens seraient bluffés. Après, ils retourneront à l'ordre du jour. Mais ceux qui travaillent avec ces créateurs en grève seraient choqués. À ce moment-là, ils essayeraient peut-être de se passer carrément de ces auteurs en grève et de ne travailler qu'avec de ne publier que des œuvres classiques et de ne pas se laisser forcer la main par les auteurs. Ça, c'est juste un petit jeu de réflexion, mais ça peut vous dire long sur les relations. On a parlé de producteurs, de consommateurs, d'intermédiaires, de politiciens, mais l'acte fondamental d'un créateur ou d'une créatrice. Après, cette créatrice forme toute sa vie en fonction de cet esprit de création. Cet esprit de création qui crée quelque chose qui est essentiel ou pas. S'il s'agit d'un vrai écrivain, d'un vrai poète, toute sa vie en dépendra. Pour lui, ce n'est pas une activité comme les autres. Pour lui, ce n'est pas un produit tout simple. Il n'a que ce produit-là. C'est son bien le plus cher sur Terre. Il peut avoir du courage et il peut échouer. Voilà pourquoi il est important d'avoir les droits d'auteur, d'avoir des avaloirs de la part des maisons d'édition. Mais je dois vous dire que je n'ai jamais profité des avaloirs. Les poètes ne reçoivent pas les avaloirs. Montal n'a jamais eu un avaloir. Trotsky n'a jamais eu un avaloir. Est-ce que vous m'entendez toujours ? Bon, ça c'est juste pour vous montrer la différence entre les poètes et les écrivains d'œuvres, de nouvelles, de romans. Les poèmes ne vous font pas gagner la vie. Le grand écrivain Pasolini a dit un jour que les poèmes sont la seule chose qui ne se prête pas à la consommation. Mais on vend les poèmes, vous voulez dire? Oui, mais les poèmes ne sont pas un produit de consommation. Parfois, un poète populaire peut vendre beaucoup de livres, mais ce n'est pas un produit de consommation, les poèmes. Ça peut devenir un objet de spéculation, certes, c'est un risque commun que nous partageons. Ces 10 dernières années, nous l'avons vu, qu'il y a des marges de bénéfices très importantes en Allemagne, en France, aux États-Unis, en Angleterre. On a vu des prix liés aux livres qui alimentent les systèmes. Ce sont des mécanismes de marché, mais ce n'était pas la question, je pense. Oui, alors quelle était votre impression lorsque vous êtes venu à la maison d'édition pour la première fois? Alors, je dois dire que ici, je suis quelqu'un qui vient d'un autre monde. Je n'étais pas habituée aux mécanismes de cette économie de marché. Lorsque j'ai rencontré le premier critique, on avait un petit accueil avec une discussion et quelqu'un me demandait si je l'avais vu. J'ai dit, j'ai vu qui? Il m'avait dit, n'avez-vous pas vu Marcel Reich-Ranitzky? Vous ne lui avez pas souri, vous auriez dû le voir et le regarder droit dans les yeux. Si on regarde votre œuvre des 25 dernières années, vous êtes un des poètes qui bénéficie de beaucoup de traductions sur le plan international. Je ne peux vous dire tous les pays où vos œuvres ont été traduites, mais que représente cet accueil européen pour vous? Est-ce que vous pensez qu'il reste des choses à améliorer? Lorsque, en 1989, j'étais à Berlin, je suis montée dans la rue. J'ai manifesté. Je ne voulais pas tout simplement aller en Allemagne de l'Ouest. Moi, je voulais faire partie de l'Europe. J'avais ce besoin de me ressentir membre d'une culture plus diverse. Ce processus est un processus qui dure encore. J'ai la possibilité d'aller partout en Europe. Je noue des relations étroites avec d'autres pays européens et je suis très reconnue du fait que mes œuvres ont été traduites. Si je regarde en arrière, je dois dire que tout ça s'est fait dans le désordre. Plein de projets de traduction ont à faire avec des passions de personnes individuelles, d'autres traducteurs, d'autres poètes qui avaient commencé à leur propre gré de traduire sans maison d'édition ensuite. Parfois, la maison d'édition a pris le relais. C'était pour moi, il m'importe pas d'être. Et pour moi, il n'est pas important si je suis d'être publié que dans des grandes maisons de publication. J'ai même sorti un livre en Serbie. Après, il m'importe peu d'être publié de toutes les grandes maisons d'édition. Je suis très reconnaissante de vivre ceci. Alors, vous êtes professeur à Düsseldorf, vous êtes souvent à Berlin, vous vivez à Rome, et souvent vous faites des présentations de livres en Europe. Vous avez une maison mère, si je peux le dire. Ce n'est pas sans ironie d'avoir une maison mère, mais pour vous, que représente l'indépendance d'une maison d'édition? On a parlé des multinationales, les capacités de marketing. Une grande multinationale a plus de facilité de publier vos œuvres en Nouvelle-Zélande, par exemple. Bon, on a parlé de symbiose aussi. J'ai beaucoup aimé cela. Dès le départ, j'ai eu une relation très symbiotique avec ma maison d'édition. C'est dû au fait que Siegfried Unzelt et moi, nous nous entendions très bien. Il m'a adoptée. Et depuis, je n'avais aucune raison de quitter cette maison d'édition, même dans des moments de succès. Des collègues ont démarré avec moi en même temps qui ont quitté la maison d'édition ou alors ont trouvé d'autres options, ont saisi d'autres options. Je souligne, il y a beaucoup tentations sur le marché. Mais moi, je suis fidèle à Zurkamp, puisque Zurkamp est fondé sur un système de parité, ce qui est rare en Allemagne. Il reste à peine une ou deux maisons d'édition où les relations avec les auteurs sont aussi pérennisées dans cette partie. Je dois dire aussi que pour Zurkamp, je travaille avec mon troisième lecteur, donc c'est aussi dû à la relation avec le lecteur. Le deuxième lecteur de Zurkamp était un bon ami et quand il a quitté la maison d'édition, j'étais dans une situation critique puisque j'ai dû faire beaucoup de décisions. Mais finalement, on a trouvé une solution et depuis de nombreuses années, je travaille avec un autre lecteur et cela se passe très bien. Revenons à cet aspect international. C'est rare d'avoir un poète contemporain qui, étant reconnu sur le plan international en ce qui concerne la traduction pour les langues scandinaves, pour le russe, français, italien, espagnol. Et donc, il y a des traductions de vos œuvres. Mais est-ce que quelque chose vous manque? Qu'est-ce qui reste à améliorer, à perfectionner? J'espère que je ne vous ennuie pas. On a beaucoup parlé. Je ne pense pas que ce soit important. Qu'est-ce qui reste à améliorer? Ben, oui, je sais. On est ici pour parler concrètement de mesures à prendre pour protéger le métier. Je sais que cette relation est fragile. Quels sont nos problèmes? Quelles sont les choses à adresser? On a parlé de droits d'auteur. C'est sûr. Mais il y a un autre problème. Moi, je suis toujours de deux côtés. Je suis utilisateur, mais je suis producteur également. Je regarde les films de manière illégale sur Internet. Je suis désolée. Je suis franc. Mais bon, je suis également celui qui achète les livres. J'achète beaucoup de livres. Je dépense énormément d'argent pour les livres. J'ai du mal avec les livres numériques, même en tant que consommateur, mais je suis quand même contente que la maison d'édition Zurkamp s'y lance. Je voulais juste dire que c'est complexe. Il faut toujours voir l'ensemble des acteurs sur le marché. J'ai eu des difficultés avec Amazon parce que je me suis rendu compte que dans ma famille, tout le monde commandait chez Amazon. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous voyez, c'est très complexe, ce sujet. Moi, je commande pas chez Amazon, mais je sais que c'est pas si facile. Alors, qu'est-ce qui reste à améliorer? Qu'est-ce qu'on pourrait changer par rapport à la diffusion de votre œuvre dans les pays européens? Ou est-ce que la situation est parfaite? Tout va bien. Vous voyez... que Zurkamp profite du caractère de ses auteurs. On profite de cette relation. C'est une relation très spéciale. D'Urs Grünwald est un auteur qui a une renommée internationale. Pour nous, c'est un succès. On a eu beaucoup de chance. Et comme vous voyez, vous avez aujourd'hui la possibilité de le rencontrer et de parler avec lui pendant que vous mangez votre dessert.
Du dessert qui commence à venir sur les tables, peut-être.
Je vais vous parler anglais. Donc, vous avez reçu des livres suivant les souhaits que vous avez exprimés auprès de mes collègues. Jérôme sera là, Jonathan est là-bas. Je pense qu'il se fera un plaisir de signer vos livres, donc n'hésitez pas. Donc nous vous souhaitons une bonne soirée et donc nous vous encourageons tous, vous les députés européens, à voter pour l'amendement 84. Donc, merci en tant que député. C'est un travail peut-être plus difficile que d'autres. Aujourd'hui, hier, on a voté. Aujourd'hui, on a eu le plan d'investissement de 300 milliards. la vie n'est pas toujours facile, mais je pense qu'une occasion comme ce soir ne se présente pas tout le temps, mais c'est quelque chose de bien. Donc ça nous donne l'occasion de défendre quelque chose que nous avons en commun, c'est-à-dire une culture européenne. Donc je veux vous remercier. C'est très intéressant d'avoir ces trois dialogues. Ça nous donne l'impression que nous avons quelque chose en commun, que nous avons quelque chose à défendre ensemble. Donc, quelque chose de fort et quelque chose qui doit rester. Nous serons de votre côté. Merci.
Vous remerciez, mesdames et messieurs les députés européens, mes collègues éditeurs et toutes celles et tous ceux qui ont participé à ce dîner autour de ce dialogue très particulier entre auteur et éditeur. Je voudrais dire un merci tout spécial à Jérôme Ferrari, à Jonathan Coe et à Durs Grunbein, à leurs éditeurs, Marie-Catherine Vacher, à Joanna Pryor et Thomas Spahr, et vous dire que, comme vient de le dire Pervenche Pérez, c'est une soirée particulière, une soirée autour de l'intimité du dialogue entre les auteurs et les éditeurs, et l'intimité aussi de ce que représente l'acte de création. Et je crois que c'est autour de ces thèmes que nous devons réfléchir et que nous devons travailler pour promouvoir l'exception culturelle, promouvoir la créativité et la création, promouvoir la juste rémunération des auteurs et mettre tous ceux qui ont envie de lire ou tous ceux à qui nous donnerons l'envie de lire les moyens de pouvoir le faire le plus facilement possible. Nous renouvellerons l'an prochain cet événement. Ce sera au mois de novembre, ce sera peut-être le 25. Ce sera à Strasbourg et ce sera au cours de la session parlementaire d'automne à Strasbourg. Merci beaucoup de votre attention et bonne fin de dîner.